toute la beauté, non, je ne me perdrai pas. Sinon pour un je ne sais quoi qu'on trouve par aventure. La saveur des beautés qui passe, souvent le mieux qu'elle fait. Elle ravage les palais et ne laisse que des crevasses. Aussi pour nulle créature, oh non, je ne me perdrai pas. Sinon pour un je ne sais quoi qu'on trouve par aventure. Non, jamais le cœur généreux ne veut aisément s'arrêter.
Vous écoutez À l'école de l'oraison, le balado des écoles carmélitaines d'oraison du Québec, saison 2025-2026, intitulé « L'oraison, racines, fleurs et fruits ». Cinquième épisode, janvier 2026, intitulé « Les vertus, forces de notre vie ». Cet enregistrement a été réalisé lors de la soirée mensuelle sur Zoom. Vous pouvez suivre l'actualité des écoles d'oraison sur le site www.lecarmel.org, section frères, onglet activités. Bonne écoute.
Il défaille. Celui dont l'amour est brûlure a le dégoût de ce qu'il voit. Il désire un je ne sais quoi qu'on trouve par aventure.
Écoutez, merci de participer à cette rencontre pour laquelle je n'ai pas de titre, mais pour laquelle j'aimerais revenir, pour un petit peu placer le sujet, j'aimerais revenir d'abord sur ce que je vous proposais à la rencontre passée. Je parlais du fruit de l'oraison, hein. Je m'étais inspiré de Galates, enfin j'avais lu Galates et commenté Galates en soulignant qu'il n'y a pas d'abord des fruits de l'oraison, mais il y a le fruit qui est l'Esprit-Saint lui-même, pardon, les fruits de l'Esprit, le fruit qu'a l'Esprit-Saint lui-même, c'est-à-dire que on pourrait dire que le fruit de l'oraison, c'est une vie avec l'Esprit-Saint, ce qui n'est pas facile à repérer, parce que l'Esprit-Saint, comme dit Jésus dans l'évangile de Jean, le vent, tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va, et pourtant il est bien réel. Il en est de même de l'Esprit-Saint. En réfléchissant à cette rencontre, je me souvenais que ce qui avait motivé le choix de ce thème d'année, c'est une question que posait une participante de l'an passé en disant « C'est bien l'oraison, mais est-ce que ça porte du fruit ? Est-ce que ça porte du fruit, l'oraison ? Oui, probablement. Mais est-ce qu'on peut détailler un petit peu tout ça ? Alors c'est ce qu'on choisit de faire, et depuis le début des rencontres de cette saison, j'ai plusieurs fois eu l'occasion de souligner ce qui, je pense, est l'expérience commune, c'est que nous ne faisons pas oraison tout comme nous mettons en culture une parcelle pour voir nos plants pousser, puis récolter nos tomates, et puis consommer tout cela. C'est quelque chose de beaucoup plus riche. Et j'avais, dans une rencontre précédente, rappelé que Thérèse, dans le livre de la vie, propose de voir l'oraison comme le fait de cultiver un jardin pour que ce jardin soit le lieu où le Seigneur vient profiter de ce que ce jardin fait pousser, ce qui est dans le fond étonnant parce que ça nous mettait à disposition du Seigneur sans forcément tout de suite concevoir le jardin comme le lieu de la rencontre, mais plutôt le jardin pour lui. Ce sont différentes façons de souligner que l'oraison n'est pas quelque chose à flux tendu, en quelque sorte. C'est-à-dire que je ne fais pas oraison dans le but de remédier à un point précis, remédier à mon stress, même si ça peut aider, parfois ça aide pas, parfois ça aide, remédier à mes défauts de concentration, mais l'oraison n'est pas une affaire de concentration, le recueillement c'est un petit peu différent de la concentration, ou bien on pourrait imaginer plein de choses, mais l'oraison n'est pas une technique en vue d'acquérir quelque chose. Il reste que l'oraison, pour chacun et chacune d'entre nous, l'oraison nous apparaît, quelle que soit la façon dont on se le dit à nous-mêmes, globalement tout de même comme la recherche d'une présence. Hein? Seul à seul, fréquemment, avec celui dont on sait qu'il nous aime, dit Thérèse. Et dans le fond, notre expérience commune, très au-delà de l'oraison, nous fait reconnaître que passer du temps avec des personnes vivantes, des personnes chaleureuses, des personnes qui portent quelque chose, pas forcément des personnes brillantes, etc., performantes, non, mais des personnes profondément humaines, ça nous change. Ça nous change. Non seulement ça nous fait du bien, mais quand même ça nous change, ça nous bonifie, ça... Ce qui peut laisser penser que si l'oraison consiste en rechercher la présence de Dieu et qu'a priori Dieu est une bonne personne, ça doit nous faire du bien. Même une logique assez simple. Thérèse d'Avila évoque cela dans Le chemin de perfection. Je ne vais pas aller vérifier la référence, mais assez tôt dans Le chemin de perfection, elle dit à ses sœurs, qu'elle appelle aussi ses filles d'ailleurs, alternativement ses filles, ses sœurs, elle dit, vous trouvez parfois que l'oraison est longue, vous vous trouvez que c'est un petit peu long, etc. Là, vous faites presque des reproches, mais ne pensez-vous pas que c'est long aussi pour celui en présence de qui vous vous tenez, qui lui est parfait et qui supporte tous vos défauts? Mettez-vous à la place de Dieu, parfois pour lui c'est long quand même. Parce que je ne dis pas qu'on est tous des gens ultra épais, mais enfin, comparé à Dieu, je ne pense pas non plus qu'on soit la finesse incarnée. Et Thérèse d'Avila, très finement, dit figurez-vous que lui, il attend. Et c'est important parce qu'elle introduit aussi cette. C'est pas une idée, c'est pas un concept qu'elle a, c'est l'expérience de sa vie. Hein. Elle écrit Le chemin de perfection en 1565, ça fait 30 ans qu'elle a commencé l'oraison et elle voit que ça l'a changé. Donc elle dit, le fond, c'est que Dieu prend patience, pas simplement parce que, encore une fois, c'est quelqu'un, c'est une tellement bonne personne qu'il est capable de se mettre avec des gens qui sont difficilement supportables, mais parce qu'il sait que ça nous change. Il sait que ça nous fait du bien, que nous soyons avec lui. Donc c'est pour nous qu'il persévère, en quelque sorte. C'est une image, qu'est-ce qui se passe dans le cœur de Dieu? S'il y en a un ou une d'entre vous qui le sait, surtout qu'il n'hésite pas à m'écrire, mais je ne suis pas sûr qu'on le sache. Ou plutôt si, on sait l'essentiel, c'est qu'on sait que la façon avec laquelle il nous envisage, chacun, chacune et tous ensemble, le créer dans son entier, c'est entièrement et exclusivement par amour. Hein. C'est une petite parole de Jean de la Croix, une de ses multiples maximes qu'il écrivait sur des petits billets. Hein. El mirar de Dios es amar. Hein, la façon de regarder Dieu, c'est d'aimer. C'est plus ramassé en espagnol, mais l'idée est forte. Alors, ceci étant posé, Je voudrais regarder du côté de l'évangile de Jean. Parce que dans la façon de faire de Jean, dans la façon dont le récit joannique se déploie, il y a comme une réflexion sur toute la vie, tout ce qu'on sait de Jésus, et puis une réorganisation en quelque sorte. Hein. Vous savez qu'il y a un certain nombre d'épisodes dans l'évangile de Jean, qui n'existe que chez Jean, ou alors qui existe chez Jean, mais de façon beaucoup plus développée que ce qui est plus anecdotique dans les synoptiques. Il y a entre autres quatre rencontres, c'est pas exhaustif ni exclusif ce que j'évoque là, mais il y a quatre rencontres chez Jean qui sont assez typiques. Dans l'ordre d'apparition, il y a Nicodème, il y a la Samaritaine, il y a le paralytique, et il y a l'aveugle-né. Et ces quatre rencontres sont des rencontres dont Jean déploie vraiment tout un... pour lesquelles Jean déploie en quelque sorte quasiment un théâtre, hein, avec des répliques, des questions, des quiproquos, etc. Il y a tout un... C'est très construit comme rencontre. Or, ce que je propose de regarder ce soir, c'est qu'en fait, ces quatre rencontres traitent toutes de la même chose. Elles traitent toutes de ce qui nous travaille, de notre rencontre avec Dieu. Elles traitent toutes aussi de la révélation, non pas du Dieu auquel on pense dans nos idées, là, mais du Dieu qui vient dans notre existence, du Dieu qui se rencontre à partir de notre existence et de notre soif de vivre. S'il s'agit, si on regarde Nicodème, c'est la naissance, qui est une façon de parler de la conversion. La conversion est foncièrement une naissance. La conversion, c'est pas se corriger de ses mauvais penchants. La conversion est vraiment de vivre une rencontre avec Dieu tellement bouleversante que l'on se sent appelé à une vie nouvelle, à une vie faite nouvelle, pas une autre vie, mais à une vie faite nouvelle. C'est un petit peu similaire pour la Samaritaine. La Samaritaine, c'est sur le mode de la soif. Et cette soif, alors je ne vais pas rentrer dans tout ce chapitre 4 de l'évangile de Jean, mais cette soif, elle est aussi l'occasion d'une révélation, c'est-à-dire la profondeur et la nature de cette soif pour la Samaritaine, c'est pour elle une révélation. Très certainement qu'elle n'avait pas conscience de la profondeur de sa soif et de sa signification réelle. C'est pareil pour le paralytique. Le paralytique, Il est, bon, non seulement il est prisonnier de son handicap depuis 38 ans, mais il est aussi prisonnier des idées un peu bizarres et magiques, hein. Si je suis le premier à plonger dans la piscine, je serai le premier guéri. Il est aussi prisonnier de ça. Et la guérison que Jésus lui offre est aussi une libération. C'est une libération parce que, libéré de son handicap, il recouvre sa liberté d'aller. Ça fait d'ailleurs penser au paralytique dans les Actes des Apôtres que Pierre et Jean croisent à l'entrée du temple. Hein. C'est la première guérison qui ait lieu dans les Actes des Apôtres. Et enfin, l'aveugle-né, c'est l'illumination, bien évidemment, mais c'est aussi l'illumination qui fait regarder le monde tel qu'il est. Parce qu'à la différence des guérisons d'aveugles chez les synoptiques, là, on nous précise bien que c'est un aveugle-né. Ce qui m'intéresse, c'est que ces quatre rencontres, qui ont chacune leur logique, qui ont chacune leur symbolique, qui aussi nous sont proches, dépendamment de la façon précisément dont nous éprouvons notre désir de Dieu et en même temps notre désir d'une vie libérée, d'une vie vraiment libérée. Raison pour laquelle, pour certains, pour certaines, la Samaritaine, et peut-être d'ailleurs à certains moments de leur vie et pas d'autres moments, la Samaritaine, et ce qu'évoque la Samaritaine, va leur parler davantage que pour d'autres, le paralytique par exemple, ou Nicodème. Il reste que c'est toujours cette même réalité d'une vie qui veut percer, une vie qui veut sortir. Alors, il faut quand même souligner que les images qui sont employées, qui sont plus que des images, en fait, qui sont des expériences profondes, la soif, ce n'est pas une image. La soif, c'est une expérience. Si je prends l'exemple de la soif, parce que c'est certainement le plus évident, mais c'est vrai pour les autres, la soif, dans l'expérience que fait la Samaritaine de la soif, parce que ça va être le paradoxe auquel elle va arriver, la soif et la source se tiennent ensemble. Ce qui permet pour la Samaritaine de saisir l'importance de cette source, c'est l'intensité de sa soif. Et ce qui fait que la source est vraiment source, c'est qu'elle en a soif. Or, ce que l'on peut dire par le biais de la soif, qui du reste est non pas un concept, mais une expérience qui peut tous nous habiter, ne se dit pas exactement de la même manière. Pour ce qui regarde l'expérience de l'aveugle-né, alors nous on n'est pas des aveugles-nés, encore que justement c'est la grande question dans l'évangile de Jean au chapitre 9, c'est cette réplique de l'aveugle, c'est quand même bien étonnant parce que vous en fait vous voyez puis vous n'arrivez pas à voir ça. C'est bien ça l'étonnant, hein. À un moment il y a cette phrase, cette expression, c'est quand même bien ça l'étonnant, c'est moi qui suis aveugle et c'est vous qui ne voyez pas. L'expérience de la vue, l'expérience de la lumière, c'est pas simplement le on-off de nos switches de plafonnier, c'est une expérience bouleversante de soudain voir ce qu'on ne voyait pas. D'autant plus que la lumière, c'est en fait l'autre nom de la vie. Les choses ne se voient bien que dans l'ordre de la vie. Toutes ces expériences sont à la fois des expériences de soi et de Dieu. Ça, c'est important. Et plus encore, ce sont des expériences qui sont provoquées par une initiative de Dieu. Et ça nous rejoint tous et toutes, on l'a souvent dit, personne d'entre nous ne serait jamais mis à faire oraison. S'il n'avait pas déjà fait une expérience dont par après il avait appris que ça peut éventuellement s'appeler oraison, et surtout s'il n'avait pas fait cette expérience, indubitable que dans ces microsecondes ou cette demi-heure ou que sais-je, d'oraison, c'était très évidemment une rencontre de Dieu. Ça ne peut pas se reconstruire par après. Si c'est pas déjà là, ça n'y sera jamais. Et si ça y est, c'est une initiative de Dieu. C'est pas moi qui ai trouvé Dieu. Alors cette initiative de Dieu, elle est là pour faire surgir le désir de la vie. À ce titre, à la précédente rencontre, j'avais tout de même rappelé et j'avais prévu de parler aujourd'hui, de revenir sur ce point, mais je vais le garder pour plus tard. J'avais tout de même rappelé que nous ne sommes pas des arbres, hein, pour ceux et celles qui en doutaient. Nous ne sommes pas des arbres. Mais il y a ceci de curieux que nous sommes les seuls êtres, autant que nous le sachions, qui considèrent les autres êtres et qui se trouvent des affinités avec eux. Le lion est très intéressé à l'antilope, hein, ça n'échappe à personne, mais il n'y a pas vraiment d'affinité entre eux. Enfin, en tout cas, l'antilope, elle a beau dire au lion qu'elle n'a pas beaucoup d'affinité avec lui. Enfin, bon, j'arrête là mon histoire, mais nous sommes les seuls à considérer aussi bien le lion et l'antilope. Enfin, moi, j'en ai jamais vu en vrai, même en Afrique. Mais la faune et la flore qui nous entourent, que des choses aussi simples que l'espèce de petite plante minuscule qui pousse de manière assez laborieuse sur le rebord de notre fenêtre. Et nous sommes les seuls à considérer les autres êtres vivants. Mais là, j'ai pris un être vivant qui est un être non animé. Là, j'ai pris une plante. Et à nous reconnaître une certaine affinité avec cet être. Nous sommes les seuls à faire ça. Et à en retirer quelque chose. Alors, nous ne sommes peut-être pas des arbres, mais nous sommes les seuls à considérer les arbres en disant que les arbres ont. Il y a quelque chose d'eux qui dit quelque chose de nous. Ce désir de vivre, je reviens au désir de vivre, ce désir de vivre que Dieu vient solliciter, j'ai utilisé plutôt l'expression de faire brèche. Ce désir fait brèche en nous, parce que notre rencontre avec Dieu est une rencontre foncièrement sur le mode de la vie. Nous sommes surpris par la vie qui nous advient. Notre rencontre avec Dieu n'est pas la rencontre de quelqu'un qui nous juge, ou quelqu'un qui nous apprend quelque chose. Foncièrement, la rencontre que chacune de nous avons fait un jour avec Dieu est une rencontre qui a touché en nous le désir profond de vivre. Alors qu'après, ce désir profond de vivre rencontre, comment dire, soit l'occasion d'une révélation sur, je ne sais pas moi, l'incohérence de ma vie, ou la violence subie, ou le non-sens, ou tout ce qu'on veut. Tout à fait possible, bien sûr, bien évidemment. Ça fait partie de la conversion. Mais l'expérience foncière de Dieu est une expérience de vie. Une expérience aussi dans laquelle il est clair que si la vie peut être vraiment ce qu'elle promet d'être, c'est qu'elle vient de lui, et que lui la donne, et qu'il va la donner. Il ne se contente pas de la faire sentir sans la donner. Et ce désir fait brèche. C'est flagrant avec la Samaritaine. C'est absolument flagrant. Elle va tout. Sa vie change. C'est aussi flagrant avec Nicodème, malgré la difficulté qu'il a à oser croire que la naissance, que la nouvelle naissance est possible. Parce qu'il est quand même pas stupide, Nicodème, quand il dit, bah là, ça me paraît difficile de revenir dans le sein de sa mère. Il est pas idiot. Il sait très bien qu'on parle au deuxième degré. Enfin, au deuxième degré. C'est pas du deuxième degré, dans le fond. C'est une expérience plus profonde de la naissance. C'est surtout que on pressent aussi, on est quand même qu'au chapitre 3, on pressent aussi que Nicodème, qui d'ailleurs est venu de nuit, donc il y a quand même, vous voyez, un mélange des images, parce que la nuit, elle va revenir, non pas avec la Samaritaine et avec le paralytique, mais elle va revenir avec l'aveugle-né, bien sûr. Nicodème, il est quand même hésitant, et pourtant il a fait cette expérience, il a goûté quelque chose de l'imminence de ce royaume, de l'imminence de cette vie. Alors, pourquoi je vous raconte tout ça? Pourquoi je nous rapporte tout cela? C'est que foncièrement, notre relation à Dieu est une relation de vie et d'une vie offerte qui nous sollicite, qui sollicite en nous notre réponse et notre désir de nous orienter dans le sens de cette vie, de nous conformer à cette vie et à celui qui nous la donne. C'est-à-dire se conformer à la vie, c'est pas un exercice de contorsionnisme, c'est de nous ouvrir à la vie et de faire confiance en celui qui nous promet de libérer en nous la vie. Et ça prend notre concours. C'est pas simplement quelque chose que Dieu nous donne. C'est pas un billet qu'il nous signe, c'est pas un dépôt qu'il fait, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Plutôt, si je rappelais le fait que nous ne sommes pas des arbres, mais que nous sommes capables, en regardant des arbres, de comprendre quelque chose de notre vie, c'est que ce désir, et je disais à l'instant, Dieu fait surgir le désir et ça fait brèche, ce désir joue dans notre conscience, dans notre esprit, dans notre âme. On pourrait utiliser une variété de termes, je vais pas, c'est pas ce soir que je vais vous faire de la philo, mais il n'empêche que Dieu vient toucher cela. C'est du reste, s'il faut reprendre l'exemple de Thérèse, c'est d'ailleurs ce qui travaille Thérèse, ce qui à la fois la brûle, la démange, la bouscule durant ces 20 années entre 1534 et 1554, où elle est à la fois très touchée par le Dieu vivant, la soif. Elle le dit déjà depuis toute petite, la Samaritaine lui parlait, mais alors là, plus que jamais. Puis en même temps, elle voit bien qu'elle répond mal, finalement qu'elle est infidèle, qu'elle part à droite, qu'elle part à gauche, qu'elle revient, qu'elle bricole, qu'elle traficote, etc. etc. Alors, ce que je veux souligner, c'est que ce que j'ai en tête aujourd'hui, j'ai toujours pas lâché le mot, je lâche maintenant, c'est de parler de vertu. Mais si je parle de vertu, on va vraiment pas comprendre pourquoi je parle de cela. En fait, j'ai déjà commencé de vous parler de vertu dans la mesure où je vous ai parlé de la vie et de la force de la vie, et de la réponse qui sollicite tout notre être lorsque Dieu vient nous solliciter, lorsque Dieu vient nous toucher. C'est flagrant chez la Samaritaine, et c'est pour ça que ce que je fais ce soir est à la fois, j'espère, pas inintéressant, mais en même temps très, très limité, parce qu'il faut lire, il faut vivre l'épisode de la Samaritaine, il faut courir avec elle, il faut la voir, elle est presque agacée par ce juif qui ose lui demander de l'eau alors qu'il sait très bien qu'il peut rien lui demander, etc. Il faut sentir cette femme qui bouillonne intérieurement, puis qui soudain, il y a quelque chose qui s'ouvre, alors elle est encore plus déstabilisée. C'est mouvant, c'est pas simplement deux dialogues off, c'est deux personnes en face l'une de l'autre avec tout ce qu'elles sont de leur sensibilité. La vie est une force en nous. Et elle s'organise, cette vie, elle se déploie selon des capacités qu'on peut ranger, en quelque sorte, qu'on peut envisager de deux façons. Si je prends un exemple très simple, si je veux courir 10 km, ça prend des capacités physiques. Ils sont quand même pas hors normes, courir 10 km, c'est quand même pas délirant. Je dis pas que tout le monde peut le faire, mais c'est pas non plus impossible. Dans les cours d'école, on fait faire ça, en tout cas, en France, pardon. En France, à partir du lycée, les jeunes sont supposés faire ça. Mais ça suffit pas. Puis je sais qu'il y en a parmi vous qui courent. Ça prend aussi de la détermination. La détermination bien déterminée, comme dit Thérèse d'Avila. Lorsque on s'apprête à une petite ascension de la montagne de votre choix, ça prend toujours des conditions physiques, mais ça prend du courage. Quand on fait face à l'adversité, on n'est pas obligé de penser à un adversaire lourdement armé, de quelque chose de très physique, mais lorsqu'on fait face à l'adversité, ça peut être parfaitement moral, il n'y a pas de force physique là-dedans, ça prend encore une fois du courage contre l'adversité. Donc ce sont deux choses différentes. Si je continue un petit peu, j'en ai listé quelques-unes, parce que c'est quand même assez intéressant. Surtout que là, on va parler des frères Carmes. Lorsque les frères Carmes se lancent dans un potager, ça prend non seulement un petit peu d'arpents, enfin pas des arpents, là, ça prend quelques mètres carrés de terre, ça prend, etc., puis ça prend un peu de persévérance. Alors vous pouvez prier pour que les frères Carmes aient un peu de persévérance, parce que toute évidence, c'est ce qui leur a manqué pour le potager. Mais tous ceux et celles d'entre vous qui ont un potager savent que ça prend de la persévérance et de la patience. Ça prend pas simplement des connaissances théoriques sur comment poussent les fèves ou que sais-je. C'est une façon de dire que, dans le fond, dans la mise en œuvre de ce qui nous habite, que ce soit des réalités physiques ou que ce soit des réalités intérieures, morales, des actes de pensée, etc., il y a non seulement des capacités, mais il y a aussi quelque chose qui est toujours de l'ordre d'une force, finalement. La force, en latin, ça se dit virtus, virtus virtutis. Et c'est de là que viennent les vertus. Alors vous voyez que la vertu, qui est souvent traitée comme une espèce de petite chose fragile et à connotation très 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 moralisante, en fait, c'est pas du tout ça. Ce qui nous habite, c'est vraiment une forme d'énergie dans ces différentes capacités. Alors, il y a une vertu qui s'appelle la force, ça c'est vrai. Mais en fait, toutes les vertus que j'ai évoquées disent quelque chose d'un certain régime de force qui fait que ce qui nous habite aussi bien dans notre corps, dans notre sensibilité, dans notre volonté, dans notre intelligence, dans tout ce qu'on veut, dans nos capacités artistiques, whatever, tout ça est habité par une certaine force. Alors, cette force, cette virtus, elle prend différents noms dépendamment de ce qu'elle est capable de développer. J'emprunte ici une expression que je tiens d'un dominicain qui a fait des conférences à Notre-Dame de Paris il y a 30 ans, un peu plus de 30 ans, et qui appelait ce que je suis en train de traiter, qui en fait s'appelle vertu, qui appelait ça des idées heureuses. Alors c'est très curieux, pourquoi? Parce que, et c'est pour ça que je suis passé par mes personnages de l'évangile de Jean, la Samaritaine par exemple, parce que la Samaritaine, elle a du courage. Elle retourne au village pour dire à tout le monde, elle qui est un peu la paria du village, pour dire, vous savez, moi j'ai rencontré quelqu'un, il m'a dit tout ce que j'avais fait. Sachant que dans le village, tout le monde cancane dans son dos. Hein. Tout le monde se raconte des trucs dans son dos. Ça prend quand même du courage. Bon. Pourquoi? Pas parce que soudain, elle a envie de défendre sa réputation, mais parce que plus profondément, elle a fait une rencontre bouleversante et c'est de l'ordre de la vie. Et tout ce qu'elle met en œuvre, c'est pour la vie. Elle a désormais une intuition forte de ce qu'est sa vie. De ce qu'est sa vie à cause de ce juif-là qui est finalement, qui est peut-être le Messie. Qui est peut-être celui qui va venir sauver nos existences. Je prends dans ces termes à elle. Donc les idées heureuses, c'est dans le fond, c'est pas du tout des concepts, hein, mais c'est ces intuitions profondes de ce que ma vie peut être, de ce que ma vie doit être. Parce que c'est bon, parce que c'est accomplissant, parce que c'est comblant de faire telle ou telle chose. Alors, c'est comblant d'aller courir 10 km quand on aime courir 10 km et qu'on a le courage pour aller courir 10 km. Enfin, le courage, mais la détermination pour aller courir 10 km. Bon, il y a des choses beaucoup plus profondes, vous le comprenez bien. Il y a des choses dans lesquelles on se lance, il y a des choses qu'on tient, il y a des choses qu'on etc. Pas du tout pour correspondre à des normes morales, pas du tout pour correspondre à ce que nos parents ou notre conjoint ou nos enfants attendent de nous, que sais-je, ou notre chef ten, mais parce que on a cette intuition forte que notre vie est là. C'est ça l'idée que met derrière ce dominicain, Jean-Louis Brugues, lorsqu'il parle des idées heureuses pour les vertus. Ce sont des intuitions fortes de ce qui accomplit notre vie. Et bien évidemment, on pourrait évoquer tout ce que je dis là simplement dans un niveau psychologique et moral, moral au sens de ce qui nous fait aller vers ce qui est bon. Tout à fait. Mais encore une fois, moi je suis parti de la Samaritaine, je suis parti du paralytique, de l'aveugle-né, de toutes ces personnes pour qui la vie commence vraiment, non pas parce qu'ils ont lu un manuel de morale ou parce qu'un jour on leur a dit qu'ils n'étaient vraiment pas dans la norme et qu'il fallait qu'ils fassent des efforts, mais parce que ces hommes et ces femmes ont rencontré Jésus le Christ et ça a fait quelque chose chez eux. C'est ça ce qui importe, c'est ça ce qui compte. Et tout ce que je développe là, tout ce que je dis là, c'est pour faire saisir que ces vertus, puisque c'est d'elles dont je parle, elles sont dans le fond déjà là, elles sont déjà dans mon être, elles font déjà partie de mon être, mais elles n'ont aucun sens s'il n'y a pas un désir de vivre. S'il n'y a pas un désir de vivre, les vertus, ça sert à rien. Après, on peut se comporter comme une personne vertueuse, mais on peut être morte à l'intérieur. C'est malheureusement vrai, et l'ordre moral étouffant qui a pu exister dans certaines sociétés, y compris la société québécoise, ou bien non la société française, parce que je vais parler, je vais balayer devant ma porte, toutes les époques où dans nos sociétés il y a un rigorisme moral, ça donne pas plus de vie. Ça va pas dans le sens de ce que sont vraiment les vertus. Ça va pas du tout dans ce sens-là. Pas du tout. La Samaritaine est un bon exemple de la femme qu'on a clouée au pilori pour des raisons morales. Alors, je ne suis pas en train de dire que le fait d'avoir eu 6 maris successifs, c'est un exemple de moralité. Mais je pense que ce n'était pas vraiment le fond du problème pour les bien-pensants du village. Il fallait la clouer au pilori, cette femme, point. Alors, une dernière chose là-dessus, c'est que, toujours dans la question de cette appellation des vertus comme des idées heureuses, il y a quelque chose d'heureux. Quelque chose d'heureux parce que lorsqu'on se sent rempli de force pour aller dans le sens de son être, c'est heureux. C'est profondément heureux. La Samaritaine, elle a dû se sentir mais transportée, heureuse, alors qu'elle allait vers le village. Hein. C'est quand même pour elle, c'est un peu le lieu difficile, quoi. Ou alors l'aveugle-né, parce que l'aveugle-né, c'est quand même la dernière des quatre rencontres évoquées, c'est une rencontre qui est pénible. Hein. Vous la relirez, hein, ce chapitre 9e de Jean. Cette confrontation, en 3 temps de mouvement, le gars, il est guéri de sa cécité. Et tout le reste du chapitre, c'est une confrontation, ça lui coûte cher de voir. Ça lui coûte très cher de voir l'aveugle-né. C'est saisissant, hein. Pourtant, j'allais dire, d'un certain point de vue, il persévère, alors qu'il avait mille et une occasions de dire « Ok, regardez, il ne s'est rien passé. » Puisque de toute façon, personne ne veut reconnaître qu'avant il était aveugle, ça lui coûtait pas cher de dire « Bah en fait, effectivement, avant je n'étais pas aveugle. » Puis de passer à autre chose. Mais il y a quelque chose qu'il travaille. Et c'est vraiment de l'ordre de la vie que Jésus lui donne. Pas simplement de la vue, mais de la vie. Et il y a, chez cet aveugle-né, puisque je me suis arrêté à lui, il y a une préférence. Il a préféré ce qui est préférable. C'est fou comme parfois on ne préfère pas ce qui est préférable, hein, soit dit en passant. Mais lui, à cause de ce désir profond qui l'anime, et un désir qui voit déjà son but, parce qu'il rencontre celui qui peut donner sens à son désir, désormais il préfère ce qui, en même temps, lui apparaît comme préférable. Il le fait, il le choisit, et il y persévère. En fait, dans toute vertu, il y a aussi une dimension de persévérance, une dimension de force, une dimension de persévérance, parce que c'est ce qui, en quelque sorte, participe à la canalisation, à l'orientation de notre être selon son désir le plus profond, vers sa source, vers Dieu. C'est ça ce qui est en jeu. Alors, fort bien, mais l'oraison dans tout ça, parce que là, ça donne l'impression, dans ce que je dis, que c'est très actif. Revenons à ce que je disais au début. L'oraison, elle naît de la prise de conscience, qui n'est pas forcément un eureka, hein, qui peut être beaucoup plus douce que cela, de la prise de conscience que, à tel moment, j'ai vraiment rencontré Dieu, et un Dieu vivant, un Dieu existant pour mon existence, un Dieu dans mon existence. Et le chant que j'ai utilisé, c'est pas la première fois que je le prenais, hein, « Même si je ne sens rien, je sais que ton amour, Seigneur Jésus, me transforme, me purifie, me rend sage, plus patient, plus aimant. » Ce chant, c'est une prière, il y en a d'entre vous qui le connaissent, j'imagine, c'est une prière du roi Baudouin, le roi de Belgique, des années 80, 70, 80, 90, il est mort dans les années 90. C'est une prière qu'il faisait régulièrement, qui a été mise en musique. « Même si je ne sens rien, je sais que ton amour, Seigneur Jésus, me transforme, me purifie, me rend sage, plus patient, plus aimant. » Nous ne faisons pas, à chaque fois que nous faisons oraison, nous n'avons pas forcément un sentiment très vif, très clair, très intense et très bouleversant que Dieu est là et qu'on est transformé. Mais c'est l'expérience et c'est la confiance que nous mettons dans notre expérience qui nous fait reconnaître que d'oraison en oraison, il y a quelque chose de plus profond, non seulement qui s'édifie, mais qui se change, et qui va dans le sens de mon être, et qui va dans le sens de la vie. Ça, c'est quelque chose que nous nous étions déjà dit, c'est quelque chose, je pense, dont nous avons tous et toutes conscience au fur et à mesure que notre vie d'oraison avance. Pas qu'elle progresse, je ne suis pas en train de parler d'une progression, mais tout simplement qu'elle avance, et que la vie d'oraison, c'est tout simplement notre vie. C'est cela. Ce que j'ajoute ici, c'est que si les vertus, c'est-à-dire ces capacités à développer ma vie, à la soutenir dans le sens dans lequel je voudrais qu'elle aille, parce que c'est dans ce sens-là qu'elle est attirée, si les vertus sont inscrites dans ce désir de vivre, ça veut dire qu'en fait les vertus, elles sont déjà prises dans la vie avant même qu'elle apparaisse en moi, dans les racines les plus profondes de ma vie. Ça, c'est quelque chose qu'on a dit dans les rencontres précédentes. Lorsqu'on parlait des racines, je vous avais même cité ce très beau poème du frère Gilles Baudry, « La patience des racines ». Fais-nous comprendre la patience des racines. C'est une hymne qu'on utilise au complit de carême, ici, au couvent. Fais-nous comprendre la patience des racines. Tout le monde sait que les arbres ont des racines et personne ne les voit. Et nous, nous prenons peu à peu conscience que la source de notre vie en nous, parce que nous, nous sommes déjà dans le flux d'une vie qui se déploie et qu'il nous faut en quelque sorte canaliser, orienter, donner, etc. Cette source est profonde en nous. Et lorsque nous faisons oraison, nous sommes très proches de la source. Et ces vertus dont nous avons besoin, ces idées heureuses, ces appréhensions heureuses de la vie au quotidien dont nous avons besoin, elles sont déjà préparées par l'unité de cette vie. Alors elles vont se développer, et puis alors là ce serait toute une... tout un développement de morale, pas au sens de morale étroite, mais de la morale, c'est-à-dire l'art de s'orienter, l'art de faire les choses belles et bonnes telles qu'on veut les faire, qu'il faudrait déployer, mais c'est pas, pour le coup, on n'est plus du tout dans notre... On s'éloignerait un petit peu de notre école d'horizon. Ce que je veux souligner, c'est que cette capacité à donner sens, à donner tour, à donner style, à donner valeur à notre vie, c'est à ça que servent les vertus, c'est comme une palette, finalement. Ces capacités-là, elles ne s'acquièrent pas de l'extérieur, elles viennent avec le déploiement de la vie en nous. Elles se fortifient, elles s'exercent, elles se reconnaissent, etc. On en connaît les limites aussi. Mais ça vient d'un mystère unifié de notre être, qui n'est pas un pur développement biologique, mais qui est vraiment un désir de vie qui sollicite notre liberté, qui sollicite notre réponse, et qui est voulu par quelqu'un qui, lui, est plus vivant que nous, mais qui nous veut vraiment vivants, et qui connaît quelque chose de notre désir de vivre. De ce point de vue-là, c'est clair que la rencontre entre Jésus et la Samaritaine est certainement la plus évidente, la plus parlante, la plus intense. Mais je vous invite à relire les trois autres épisodes mentionnés dans cet esprit. Même si Jésus parle peu, même si parfois il agit peu, vous verrez que dans l'aveugle-né, il apparaît au début, puis pouf, vanished, on ne le voit plus. Et tout le monde parle de lui, sauf qu'il n'est pas là. Et d'ailleurs, l'aveugle-né ne l'a jamais vu. Hein. L'aveugle-né n'a jamais vu Jésus jusqu'à la fin du récit. À la fin, il le voit, mais il ne l'a pas vu, parce qu'il est allé se laver à Siloé, puis quand il est revenu, Jésus n'était plus là. Ce qui ne veut pas dire que Jésus est absent de la scène. Ce qui ne veut pas dire que Jésus soit absent de ce qui arrive à l'aveugle-né. De la découverte de ce qu'il en est pour lui de la vie, y compris, c'est pour ça que je finis quand même là-dessus, de ce qu'il peut en coûter, en quelque sorte. Lorsque la vie se manifeste, ce qu'il peut en coûter du désir de répondre à la vie qui se manifeste. Mais ce coût, en quelque sorte, n'est pas un coût impossible. C'est quand même appuyé sur la promesse de celui qui lui a demandé « veux-tu voir ?» et qui ne va pas le lâcher, qui ne va pas nous lâcher, nous. Alors c'est ça. C'est ça ce que je voulais développer aujourd'hui pour un petit peu recentrer, puis dans les prochaines rencontres, on va continuer un petit peu sur nos histoires de plantations, horticulture et autres vergers.
Et là, elle goûte un je ne sais quoi qu'on trouve par aventure.
Vous avez écouté la cinquième rencontre des soirées proposées dans le cadre de l'école d'oraison par Zoom et intitulée « L'oraison racines, fleurs et fruits ». Pour participer à la soirée, qui comprend un temps de prière en commun puis un enseignement suivi d'un temps de questions, écrivez-nous à écoleoraisonzoom@commercial.gmail.com. Cette activité est sans frais. Plus d'informations au sujet des écoles d'oraison animées par la famille du Carmel sur le site www.lecarmel.org. La poésie pour toute la beauté de Saint-Jean de la Croix est mise en musique et interprétée par frère Pierre Eliane. Vous pouvez la retrouver sur les plateformes d'écoute en ligne. Merci de nous avoir écoutés.
Qui ne coûte aucune saveur parmi toute la création, seul sans mémoire ni figure, sans le moindre appui quel qu'il soit. Il découvre un je ne sais quoi qu'on trouve par aventure. Et ne pensez pas qu'en son cœur, où sont cachés tous les trésors, il trouve joie et réconfort dans ce qui donne ici la saveur. Ni passé, présent, ni futur, toute beauté passée déjà. Là il goûte un je ne sais quoi qu'on trouve par aventure. Cherche à s'avancer, mettra davantage de soin dans ce qui est encore loin, quand ce qu'il a déjà gagné. Aussi pour une hauteur plus sûre, je préférerais aller là où m'appelle un je ne sais quoi.
parmi toute la...